Pendant longtemps, quand il s'agissait de parler de la vérité et du mensonge, je prenais comme illustration notre ami, enfin entre guillemets ami, Bernard Tapie, dans les années 90, au tribunal de Marseille. Il avait sorti cette phrase devant le juge et le procureur de la République: « Messieurs, j'ai menti de bonne foi ». Mais on a fait mieux depuis Bernard Tapie, en fait. Et l'actualité nous montre des exemples de détournement de vérité assez exceptionnels. On a eu en France le fameux Jérôme Cahuzac, ministre du Budget en charge de la lutte contre l'évasion fiscale, qui a menti devant tout le monde et à la télévision avec un aplomb extraordinaire, incroyable, alors qu'il avait deux comptes à l'étranger, en Suisse et à Singapour. Et c'est resté dans nos mémoires, hein, ce mensonge de Jérôme Cahuzac. Mais dans un autre genre, on atteint aussi des sommets de falsification de la vérité avec le président des États-Unis actuel, dont le prénom est le même qu'un canard, qui pendant des années peut lancer des rumeurs sans aucune preuve. Pendant 5 ans, il a soutenu que Barack Obama était né en Afrique et non pas sur le sol états-unien. Sans aucune preuve, et quand il devient évident qu'il s'agit de mensonges, eh bien, il ne se passe rien. Donald Trump, pour ne pas le nommer, ne présente pas d'excuses, n'a aucun remords et hausse simplement les épaules. Le mal est fait, la rumeur a fait son œuvre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour couvrir les mensonges de son président, sa conseillère en communication, Madame Conway, a parlé donc pour le défendre, que Donald Trump donnait simplement des faits alternatifs. C'est connu. Il donne des faits alternatifs. Et Télérama, qui faisait un article là-dessus la semaine dernière, disait: faits alternatifs, des bobards, oui. Et Obama a réagi en disant que nous vivions dans un écosystème, le nouvel écosystème médiatique veut que tout soit vrai et que rien ne soit vrai. On en voit aussi sur Internet des millions de fake news, de fausses nouvelles, pour du profit ou par méchanceté, et il devient extrêmement difficile de démêler le vrai du faux. Même Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, s'est dit inquiet devant le problème de la véracité des informations. On a de plus en plus de mal à faire le tri, et il me semble même que de plus en plus de personnes ne cherchent même plus à faire le tri. On se laisserait, dit un journaliste, guider par nos émotions plutôt que par les faits réels. Certains appellent ça l'ère de la post-vérité, un euphémisme pour désigner le règne des mensonges. En allemand, post-faktisch. Et on est après les faits. Les faits n'intéressent plus personne. C'est que les émotions ou les opinions. La vérité n'est plus un fait, mais c'est une opinion. On a un vrai problème avec la vérité aujourd'hui. Et c'est un sujet d'actualité, on va dire aujourd'hui comme hier. Parce que, alors qu'on approche de Pâques, on se souvient de ce personnage un peu énigmatique avec un prénom intéressant, Ponce, et un nom qui l'est tout autant et qui ressemble à un cours de gym, mais qui semble lui avoir aussi un problème avec la vérité. Et lorsqu'il interroge Jésus sur les faits qui lui sont reprochés, Jésus lui répond qu'il est venu pour témoigner de la vérité, qu'il est roi, effectivement, comme Ponce Pilate semblait lui suggérer. Es-tu le roi? Oui, je suis roi et je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et Ponce Pilate, à cette évocation de la vérité, va répondre: oui, mais qu'est-ce que la vérité? En avance sur son temps, peut-être, Ponce Pilate, mais la question de la vérité est d'actualité de tout temps. Et Pilate aussi, il est connu pour cette question sur la vérité, mais pour un autre geste qu'il fera plus tard, celui de se laver les mains. Et il se lave les mains de la condamnation de Jésus, il ne veut pas en être responsable, mais il se lave les mains aussi de la vérité. Qu'est-ce que la vérité ? Eh bien, on ne sait pas. Alors, on s'en lave les mains. Il y a bien sa femme qui a eu des rêves par rapport à Jésus, mais faut-il croire le rêve des femmes ? Ce ne sont pas des faits. On ne sait pas. Je parle comme si j'étais Ponce Pilate. Hein, mais il vaut mieux pas prendre de risques. Et donc, on se lave les mains de la vérité. Et la vérité n'est plus. On a lavé de notre vie. On n'est pas responsable de la disparition de la vérité et certainement pas coupable de ce qui se passe. Et en fait, Ponce Pilate serait en avance sur son temps et serait aujourd'hui comme un poisson dans l'eau dans notre période qu'on appelle post-vérité, mais aussi post-moderne, et son relativisme. On ne va pas passer trop de temps sur ce terme, mais les post-modernes, aujourd'hui, ceux qui on voit au chapitre, ont proclamé la fin de l'absolu. L'absolu, quel qu'il soit, et pour la vérité en particulier, il n'y a plus de vérité absolue, et proclamer la vérité relèverait même de l'autoritarisme ou du fascisme, nous dit Jacques Derrida et Michel Foucault, pour les déstructuralistes. Il n'existe, nous dit un auteur, aujourd'hui, aucun point de référence fixe, aucune encre invariable. Le postmodernisme a donné congé à la vérité et l'a remplacée par des vérités. En fait, la vérité est ce que nous, en tant qu'individus, nous faisons tel. Et j'aime bien, au tribunal, là, je jure de dire ma vérité, toute ma vérité, rien que ma vérité. Ça, c'est vachement postmoderne, en justice. Et donc, dans la vie de tous les jours, on peut, et sur des sujets un peu tendus qu'on peut avoir au travail ou à l'université ou entre amis, on arrive parfois à conclure le débat en disant « bon, ben, pff, chacun sa vérité, en fait. Tout est relatif. L'important, c'est d'être convaincu. Ouais, tu as été convaincu, à défaut d'être convaincant peut-être, mais non, chacun sa vérité. » Et pour être cool et pour éviter les tensions ou même les bagarres, on arrive à ces conclusions-là, mais quand même, on arrive aussi à des problèmes quand on développe ce genre d'attitude. Au quotidien, quand même, devant une pomme, vous dites « c'est une pomme ». Et que l'autre dise « non, ce n'est pas une pomme, c'est une banane », il y a un problème. Soit il a tort, soit vous avez tort. Mais on ne peut pas avoir raison tous les deux. Vous ne pouvez pas avoir raison tous les deux. Alors, bonne poire, vous pouvez lui dire « ok, c'est une banane », alors que c'est une pomme. Mais ça ne fera pas de la pomme une banane. Par rapport à la réalité objective de la pomme, il y a une vérité absolue de la réalité sensible de la pomme. Une vérité absolue de la réalité sensible de la pomme. C'est le bon sens. Sinon, on arrive à des absurdités qui sont évidentes, s'il n'y a pas de vérité absolue. Mais à d'autres niveaux aussi, le relativisme ambiant peut mener à des impasses. Par exemple, il y a dans l'hindouisme une pratique, une certaine pratique qui s'appelle la pratique du sati. Et qui consiste à brûler vives ou à enterrer vivantes les veuves hindoues. C'est une pratique terrible. Mais on va trouver des gens pour défendre, avec beaucoup de conviction, cette tradition. Et qui y voient une très bonne chose, une bonne solution, un peu finale, mais une bonne solution. Et qui vont effectivement la défendre et qui vont dire que c'est une question de culture et de tradition. Et selon le postmodernisme, de telles convictions peuvent être vraies pour certaines personnes. Mais on en arrive à des impasses absolument de haute folie, comme j'ai vu voilà, l'impasse des hautes folies. Et donc le postmodernisme, dans sa relativisation de la vérité, nous mène à des impasses par rapport à la réalité, mais aussi par rapport à l'éthique, la morale, les questions de bien et de mal. C'est mal. Je voudrais le préciser quand même, d'enterrer les veuves vivantes. Et on ne peut pas simplement dire qu'il n'y a que des vérités relatives, c'est une impasse, parce que du point de vue moral, on ne peut pas laisser passer tout cela sans réagir. Il doit exister des normes de jugement, des références absolues qui permettent d'exclure les points de vue inacceptables. Et donc, dans cette confusion de vérités relatives personnelles et contradictoires, dans notre monde de fake news et de post-vérité, devant Pilate qui se lave les mains de la vérité parce qu'il ne sait pas trop quoi en faire, il y a une parole différente qui détonne. Et cette parole, c'est Jésus qui la prononce. Et il va mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et il va dire, à un moment, et je pense que Corinna l'a dit tout à l'heure, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité ». Et la vie, on ne vient au Père que par moi. Et cette phrase a fait beaucoup réagir. Et si vous la citez sur la place Clémenceau à quelqu'un que vous croisez, il va trouver que c'est un peu prétentieux de la part de Jésus de proclamer la vérité, parce qu'il va vous dire « toutes les vérités sont relatives ». Et Jésus semble dire qu'il est effectivement la vérité. Et Jésus, on l'aime bien comme il dit, quand il dit « aimez-vous les uns les autres » ou « heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés ». Et on doit bien l'aimer pour cela aussi. Mais il dit aussi « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et en fait, quand on lit le texte dans l'original, on pourrait traduire, et on devrait traduire peut-être, « je suis le vrai chemin de la vie ». Que la vérité concernerait le chemin. Je suis le vrai chemin, c'est-à-dire un chemin que tu peux prendre en toute confiance. Ainsi, dans la bouche de Jésus, et il faut quand même le souligner, que la vérité aurait plus à voir avec la confiance que l'on peut faire à quelqu'un, et en lui en l'occurrence, qu'à l'exactitude d'une série de propositions auxquelles il faudrait adhérer. Et donc, revenir à la question de Pilate, qu'est-ce que la vérité ? On pourrait répondre que la vérité, c'est une question de confiance. Quand on dit que l'Évangile est vrai, que la bonne nouvelle de l'Évangile est vraie, que Dieu nous aime et qu'il le prouve en Jésus-Christ par sa croix et sa résurrection, eh bien, on veut dire que l'Évangile est digne de confiance, qu'avec Jésus, il n'y a pas d'embrouille, qu'il va vraiment nous mener vers Dieu, donner un sens à notre vie, répondre à des questions essentielles, aux vraies questions de la vie, même celles qui dérangent. Jésus est vrai. On peut se fier à lui et à ce qu'il nous dit. Et la vérité pour la foi chrétienne n'est donc pas une liste de mots exacts, c'est une personne à qui on peut faire confiance. La vérité n'est pas rigide, elle est accueillante. La vérité n'est pas exclusive, mais inclusive. Et le chrétien ne se dit pas « moi j'ai la vérité et toi tu es dans l'erreur, tant pis pour toi ». Il dit « bon écoute, je ne suis pas sûr de posséder toute la vérité, rien que la vérité, mais je sais une chose, c'est que j'ai placé ma confiance en quelqu'un qui ne me déçoit pas et qui a vraiment les paroles de la vie éternelle ». Et le contraire de la vérité n'est pas l'erreur. Tout le monde peut faire des erreurs, personne n'est jamais tout à fait exact dans ses exercices de maths ou dans ses comptes à la fin du mois, etc. Ou même dans son comportement, on n'est jamais exact. Mais le contraire de la vérité, c'est le mensonge, la dissimulation, la fraude, la comédie. Et on sait que Jésus en a beaucoup parlé de la comédie, et de l'hypocrisie, c'est le même mot en grec, vous le savez déjà peut-être. Les comédiens du théâtre grec s'appelaient des hypocrites, des hypocrites. C'est pour ça d'ailleurs que l'Église primitive, l'Église du 1er et 2e siècle, se méfiait du théâtre. Parce que c'était tous des hypocrites qui jouaient le théâtre. Et ils n'aimaient pas ce double jeu. Après, on a compris que jouer la comédie n'était pas la même chose que de faire la comédie. Mais on est quand même toujours étonné quand on lit les évangiles de voir que Jésus accueillait des pécheurs invétérés, et pas des pécheurs à la ligne, mais des pécheurs qui pêchent, qui commettent des péchés, qu'il accueillait des femmes de mauvaise vie, qu'il accueillait des collaborateurs de Romains, mais qu'il ne supportait pas ceux qui jouaient à la comédie. Il est très dur envers les fraudeurs. Il est très dur envers ceux qui mentent sur ce qu'ils sont et qui trompent les autres et qui se mentent à eux-mêmes et qui ne sont pas dans la vérité. Se mentir à soi-même, mentir aux autres. Ah, il est beau ce sourire plein de dents. Un chouïa hypocrite. Hein. Ne pas être dans la vérité. Et là, on en arrive à notre vie de tous les jours et notre rapport personnel à la vérité. Parce que la question philosophique, voire métaphysique de la vérité, qu'est-ce que la vérité, est intéressante, mais il ne faudrait pas qu'elle soit un écran de fumée pour fuir une autre question plus personnelle et plus gênante peut-être. Est-ce que moi, je marche dans la vérité? Ou alors, est-ce que je porte un masque de comédien? Est-ce que je ne m'invente pas parfois un personnage? Une sorte d'image de marque? Pour mieux passer dans certains milieux? Pour mieux traverser quelques circonstances inconfortables de la vie. On est là avec le masque dans la fraude très personnelle, de la fraude sur soi. En 2015, le directeur de l'aéroport de Limoges a été limogé et condamné pour avoir fabriqué de toutes pièces un CV fabuleux qui lui avait permis d'obtenir le poste de directeur de l'aéroport de Limoges. Et ce qui est incroyable dans l'histoire, c'est qu'il remplissait ses fonctions avec succès et que ses employeurs étaient tout à fait satisfaits de ses services. Jusqu'à la découverte de la fraude, ce qui prouve qu'il avait les qualités requises, mais il a fraudé sur sa vie, sur son curriculum vitae, sur son parcours de vie. Et que dire du grand rabbin de France, Gilles Bernheim, qui a démissionné le 11 avril 2015, c'est un fait, après avoir reconnu s'être livré à des plagiats dans ses livres et avoir menti notamment en disant avoir une agrégation de philosophie, ce qui n'était pas vrai. C'est plus facile, effectivement, de s'inventer une agrégation que de la passer. Mais la découverte du mensonge, de la fraude, de la dissimulation, de l'usurpation d'identité, on imagine les dégâts dans la vie de ce grand rabbin, dans la vie de sa famille. Et l'image qu'on voulait donner de soi se retourne en quelque sorte contre soi. Et ça fait très mal, j'imagine. Proverbe 22, 8 nous dit « Qui sème la fraude moissonne le malheur ». Alors on pourrait s'étonner de ces inventions de curriculum vitae ou de diplômes, de ces fraudes identitaires, mais qu'en est-il de nos propres vies ? Ne nous arrive-t-il pas quelquefois de jouer un peu, beaucoup passionnément, un rôle ? De frauder très légèrement sur nous-mêmes ? Il faut le dire, nous portons parfois des masques selon les situations, les circonstances, pour se mettre un peu en sécurité, pour imposer ou pour en imposer, ou pour se distinguer, ou au contraire se fondre dans la masse, passer inaperçu, jouer à la petite fille modèle. Ça, j'ai rarement fait, mais ça peut exister. Ou une mère très préoccupée et soucieuse de ses enfants, mais qui cache derrière cet investissement une haine profonde, ou ce joyeux-drille. On a de la joyeux-drille qui font la fête. Moi, j'en ai connu un, mais qui était violent avec sa petite amie quand il rentrait après la fête. Ou le masque de celui qui réussit, du gagnant. Ou le masque contraire, celui du loser, mais tellement sympathique, Alain Souchon, à l'intellectuel. Le masque de celui ou celle qui aide tout le monde, qui a le cœur sur la main. C'est un bon masque qui passe très bien, mais qui cache parfois des réalités moins sympathiques. Bref, à chacun son masque. Je n'ai pas voulu faire une galerie trop importante, mais je ne sais pas si ça vous parle, mais les masques. Alors les masques, il faut savoir qu'on est parfois obligé de les porter sur le chantier de la vie, comme le port du casque est obligatoire sur les chantiers, les vrais, là, on est parfois obligé de porter ces masques sur les chantiers de la vie. La société nous oblige parfois à en porter. L'entourage familial nous fabrique un masque sur mesure. Parfois, il s'agit aussi d'une manière de se protéger ou un outil pour faire sa place dans le groupe. Mais il y a un risque avec le port du masque, c'est qu'il finit par nous coller à la peau. Vous voyez ? Imagine ça. Il y a des films avec ça, le masque qui colle. Et qu'il finit par devenir notre peau, et que ça devienne effectivement notre personnage, et on est dans l'inauthentique complet. On marche, pour le dire de façon triviale, tout à fait à côté de ses pompes. Et on passe sa vie à jouer la comédie, mais il y a une bonne nouvelle, Jésus y fait irruption dans cette galerie de masques, comme il a fait irruption dans le temple, et il a renversé toutes les tables des marchands du temple, et il renverse les porte-manteaux avec tous nos déguisements, avec tous nos costumes, avec toutes nos tables de maquillage, et il dit « Vous avez fait de ma maison un actor studio, et je voulais de cette maison une maison de prière. Arrêtez tout de suite cette mascarade. » Et surtout, il nous appelle à rentrer dans le vrai avec lui, à marcher dans la vérité avec lui. Et dans le Nouveau Testament, Dieu dit dans sa parole « Ne mentez plus » ou « rejetez le mensonge, que chacun parle avec vérité à son prochain. Non pas dire la vérité de l'autre, mais dire sa vérité. Se présenter authentiquement, comme il est. Bas les masques, nous dit la Bible. Bas les masques. Pourquoi bas les masques ? Eh bien, deux raisons. Parce que si on continue à porter les masques, on va passer à côté de la vie, de la vraie vie. Le port du masque est très dangereux. Je cite encore un philosophe allemand aujourd'hui, très allemand, Heidegger, qui était le philosophe de l'authenticité, qui disait « l'être, le Dasein, l'être là, l'être, tout simplement, peut se perdre dans une vie inauthentique. » Il parlait de perdition. Avec un masque, on peut se perdre. Et une deuxième raison, c'est qu'un jour ou l'autre, le masque tombe, parce que le masque ne dure pas. Il arrive un moment où il tombe et l'être se révèle. Et plus on le garde, plus la révélation de ce qu'on est vraiment peut être douloureuse et chaotique. Alors il y a dans la Bible un homme qui s'avance masqué. Il s'appelle Jacob. On a lu le texte de la lutte de Jacob avec Dieu et avec les hommes tout à l'heure. Et donc son père, le père de Jacob, s'appelle Isaac. Et Isaac est un père absent. Père absent, fils manqué, on dit. Mais voilà, ça c'est de la petite psychologie, pardon. Et sa mère, Rebecca, est une femme de caractère un petit peu dominatrice, manipulatrice, peut-être. Pas facile de se faire une identité dans ce contexte. Et Jacob va avancer dans la vie en développant l'art du déguisement, l'art du double jeu, de la tromperie. D'ailleurs, Jacob, le mot Jacob, ça veut dire le supplanteur, le trompeur. Déjà avec un nom comme ça. Alors il commence avec le fameux plat de lentilles, mais il continue encore plus fort en prenant l'identité de son frère Ésaü, pour voler la bénédiction de son père. Il ment sur son identité et son père, qui n'y voit plus grand-chose au propre comme au figuré, lui demande plusieurs fois « C'est bien toi, Ésaü ?» Et Jacob répond à chaque fois « T'inquiète, c'est bien moi, Ésaü. » C'est Jacob qui le dit. Vous vous rendez compte du mensonge, usurpation d'identité, piratage de ta page Facebook, ça peut coûter cher, mais pour Jacob, ça rapporte. Il a le droit d'aînesse, il a la bénédiction du père. Un peu plus tard, il trompe son beau-père Laban dans une sombre histoire de brebis et de manipulation génétique, avec faux usage de faux, abus de biens familiaux. Et Jacob a l'audace de dire « Dieu m'a permis d'avoir un grand troupeau ». Mais il a triché pour ça. Il a triché. Alors qu'il a traficoté la nuit dans le troupeau pour avoir des résultats en sa faveur. Fantastique comédien, Jacob, ou peut-être, et il a peut-être fini par y croire lui-même. Il est devenu son propre rôle, et Jacob est l'image type du type qui ne marche pas dans la vérité. Et le pire est que cela semble marcher pour lui. Pourtant, il y a un petit verset au début de son histoire, et qui vient après qu'il ait menti sur son identité. Il fuit la vengeance d'Ésaü, il rencontre une jolie femme, une bergère, et il l'embrasse, ce qui semble être tout à fait normal, mais il ne fait pas que l'embrasser, il va se mettre à sangloter dans ses bras. Bon, je ne sais pas, mais quand je n'allais pas pleurer, quand j'allais embrasser Yvonne. Je me suis embarqué à un truc. Jacob, il va se mettre à sangloter dans les bras de Rebecca. Et l'histoire ne nous dit pas pourquoi il pleure. La fatigue peut-être, mais on peut penser qu'il craque quelque part. Que dans les bras, c'est Rachel, pardon, dans les bras de Rachel, que le masque de trompeur se fissure un peu. Ça devient lourd à porter et que l'amour, quelque part, fait tomber le masque. Jacob sanglote dans les bras d'une jeune femme. C'est beau, c'est légèrement romantique, mais Jacob continue sa comédie jusqu'au jour du combat, de la fameuse lutte de Jacob où un type va se battre avec lui. Alors c'est peut-être, c'est un peu étrange comme combat, le récit nous parle de quelqu'un qui se bat avec Jacob. Après, on s'aperçoit que c'est Dieu qui se bat avec Jacob, et les hommes. En fait, on a l'impression que Jacob se bat avec le monde entier, et peut-être surtout avec lui-même. Et il sort vainqueur de ce combat avec Dieu parce que son masque tombe dans la bagarre, et que son nom est changé dans la bagarre. Il ne s'appelle plus Jacob, le trompeur, le supplanteur, le fraudeur, mais il s'appelle Israël, celui qui lutte avec Dieu. Et ce combat l'a sorti de cette grande comédie qui était sa vie, et il peut dire un peu plus loin, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » C'est Israël qui dit ça. Ex-Jacob. Et l'accent de ce verset tombe sur ce visage de Dieu. J'ai vu Dieu face à face. J'ai vu Dieu, j'ai vu le visage de Dieu. J'ai vu le Dieu véritable. Comme je vous vois, j'ai vu en hébreu la panim de Dieu. Et il appelle ce lieu Péniel parce qu'il a vu le visage de Dieu, panim. Et peut-être même son propre visage. Et on a dans le verset 31, en hébreu, cette expression « panim el panim », face à face. Et si je compte bien, ça fait deux faces. La face de Dieu et la face de Jacob. Le visage de Dieu et le visage de Jacob, sans masque, son vrai visage. Et dans cette lutte, Jacob a rencontré Dieu, mais il s'est retrouvé lui-même. Bas les masques. Dans ce combat avec Dieu. Un moment de vérité pour Jacob. Et à partir de là, les choses vont changer. Et la première chose qu'il va faire, c'est se réconcilier avec Ésaü, le frère aîné, qu'il a trompé tout au long de sa vie. Et Ésaü courut à la rencontre de son frère. Et les deux pleurent. Encore une fois, on pleure beaucoup dans cette histoire. Mais ce sont des larmes de libération et qui illustrent bien cette parole de Jésus qui nous dit à un moment, « La vérité nous rendra libres. » La vérité sur soi, sur ce qu'on est, sur ce qu'on essaie de cacher, nous rend libres. Et c'est un Jacob libéré qui tombe dans les bras, ou je devrais dire Israël, libéré, qui tombe dans les bras de son frère Ésaü, parce qu'en tombant le masque, il peut se réconcilier avec lui. Ce Jacob n'était pas libre depuis le plat de lentilles. Il était prisonnier de son personnage et de ses mensonges. Et puis il y a ce combat face à face avec Dieu, au contact de la vérité, de ce qu'il est devant Dieu, et qui le rend libre de se réconcilier avec son frère. Waouh, quelle histoire! Et nous sommes bien souvent prisonniers de nos masques, enfermés dans nos rôles, voulus ou non, prisonniers de notre image de marque, de notre orgueil aussi, de notre désir de paraître, prisonniers aussi de notre péché, de notre fraude, de notre inclination à la fraude, à la dissimulation. Et quand nous exposons tout cela à la vérité de la parole de Dieu, qui nous dit à la fois notre besoin de Dieu et notre éloignement de lui, qui nous parle de la bonne nouvelle que Dieu nous aime tel que nous sommes et qui le prouve en Jésus-Christ et qu'il veut nous voir changer de nom, qui nous appelle à ouvrir la porte de notre intérieur dans lequel on se cache, alors, oui, les masques tombent. Et je peux être libre de venir à Dieu tel que je suis, dans ce vrai chemin de la vie, tel que je suis, mais en laissant tomber le masque. Il y a des luttes et des combats, et peut-être que certains d'entre nous pensent à certaines situations, circonstances. Il y a des masques qui nous collent à la peau, et difficile donc de les arracher alors qu'ils nous collent à la peau sans y laisser quelques plumes ou quelques morceaux de peau. Mais la lutte en vaut la peine. Il est question de la vie, de la vraie, rien de moins. Et si vous n'êtes pas encore chrétien ce matin, je vous invite à considérer cette question de la vérité dans votre vie, de cette vérité que l'on dit relative, mais cette vérité absolue que nous avons besoin de marcher dans la vérité. Et que cette vérité, c'est le Christ qui nous permet, dans sa grâce et son pardon, de mettre bas les masques. Et d'avoir aussi ce moment de vérité, ce péniel, comme il est dit dans la Genèse. Et si vous êtes déjà chrétien, il nous faut considérer également cette question de la vérité dans notre vie, car les masques reviennent vite. Et le masque du spirituel religieux encore plus vite. Et il faut considérer la question de la vérité pour nous aussi, et surtout ce verbe qu'il y a dans le Nouveau Testament concernant le mensonge, rejeter le mensonge. Un verbe ultra dynamique, rejeter loin de vous, débarrassez-vous, savoir dire non, fermement, énergiquement, même si ça nous coûte, même si ça nous arrache un peu la peau. Et le meilleur moyen de le faire serait de s'exposer tout à nouveau à la parole de Dieu. Jésus dit dans la prière, dans sa prière finale de Jean 17, prière sacerdotale, qui dit à ses disciples, « Ta parole est la vérité, transforme-les par ta parole. » La parole nous change parce qu'elle est la vérité et qu'elle va en profondeur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle débusque les masques et les contrefaçons. Elle nous travaille et même parfois, elle lutte avec nous. mais elle nous rend libres. Puissions-nous nous laisser transformer par la vérité de la parole. Amen.